Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission animée par Nathalie Croiset.
Tous les mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, on met en avant le plan de relance qui a maintenant plus d'un an. D'ailleurs, on s'interroge, peut-être un plan de relance 2 bientôt ou un plan d'investissement à suivre. En tout cas, on en voit les impacts du côté du monde du bâtiment. Et ce mois-ci, on a voulu voir aussi quel était l'enjeu finalement dans ce plan de relance, dans la relance de l'épargne privée. Pour en parler, on est en ligne avec José-Michaël Chenu. Bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes directeur marketing stratégique et développement urbain de Vinci avec un petit écho, j'espère qu'il va passer. Alors déjà pour rappeler des chiffres, l'année dernière, les Français ont battu des records en termes d'épargne. On parle de 200 milliards d'euros, certains disent 150 milliards. En tout cas, si c'est 200 milliards, c'est deux fois plus que le plan de relance de 100 milliards. Donc il y a de l'argent aussi qu'il faut dépenser, utiliser aussi pour les différents secteurs. Alors avant qu'on en parle de la façon dont on pourrait prendre en charge, si je puis dire, et prendre en main cette épargne privée. Pourquoi vous vous y intéressez depuis un petit moment, on va dire, à cette question-là, José-Michaël Chenu ?
Alors, oui, effectivement, dans le cadre des missions de notre entreprise, nous pilotons une expérience qui s'appelle Démonstrateur industriel ville durable, qui est en fait un test de coopération entre acteurs du privé et acteurs de la ville au sens large. C'est une association qui regroupe à peu près 200 adhérents et nous identifions en fait des idées innovantes pour les proposer aux territoires qui souhaitent évoluer et rencontrer des acteurs, notamment du monde privé. Et dans ce cadre, en réalité, nous étudions les projets de territoire et nous apportons des idées que nous essayons de mettre en œuvre en faisant coopérer différents types d'acteurs, aussi bien des acteurs du monde académique que des grandes entreprises, que des PME, associations et autres acteurs souvent locaux.
Et donc,
dans ce cadre, en réalité,
oui.
on voit bien aujourd'hui que les modes de faire la ville tels qu'ils étaient bien éprouvés, on va dire, jusqu'à la fin du XXe siècle, changent, notamment parce que les besoins évoluent, les choses vont de plus en plus vite, et puis en même temps, ces modes de faire qui étaient très séquentiels, le ministre Angélister en parlait tout à l'heure, ne correspondent plus forcément à la manière de faire coopérer les acteurs. On était trop en silo et aujourd'hui, en chassant en meute ou en coopérant autour de projets que nous partageons, on se rend compte qu'on fait avancer les sujets, y compris en local. Et notamment, on les fait avancer parce qu'on utilise d'autres modes de financement que les financements publics traditionnels, qui sont très, très bien, qui sont bien en place, mais qui parfois ne suffisent plus. Et on voit des tentatives ou des expériences locales extrêmement intéressantes.
Alors, on va en parler de
cette ville, de ces projets locaux.
Voilà. Oui, on va en parler de ces projets locaux, des solutions qu'il peut y avoir. Je vous interromps, c'est un peu compliqué parce que quand on vous suit derrière un téléphone, je vous vois pas, donc c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est de vous puissiez parler de ces solutions dans un instant. Mais tout d'abord, on voit là, il y a beaucoup d'argent, évidemment, il y a de l'épargne, les Français épargnent. Ils n'ont pas toujours nécessairement les bons outils, le bon choix, et notamment pour investir dans le bâtiment, dans votre secteur, c'est ça que vous voulez dire ?
Alors, notamment, bien sûr, aujourd'hui, l'épargne, on parle de 150-200 milliards qui ont été épargnés pendant la crise du Covid, mais ça correspond à un argent disponible, mais en parallèle, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. L'argent, finalement, quand il dort, il frustre ses propriétaires ou l'épargnant qui a de l'argent sur un compte en banque qui ne rapporte pas du tout aujourd'hui, voire négatif, il peut être amené à s'intéresser à d'autres types de projets et surtout s'intéresser à des projets locaux. Et en réalité, on le voit, c'est la raison pour laquelle notamment les prix des appartements flambent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent et les gens préfèrent placer là où ils comprennent où va leur argent. Et notamment, pour des appartements, même si le rendement baisse, aujourd'hui, ça fait monter le prix des appartements et des actifs parce que c'est des choses que les gens comprennent. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire comprendre aux épargnants quelle peut être l'utilisation de leur argent, mais avec un début de profitabilité.
Alors ça peut passer, on voit beaucoup par exemple le développement du financement participatif, le crowdfunding pour français, ça peut être un des leviers pour le secteur du bâtiment par exemple, José-Michaël Chenu.
Alors ça l'est déjà, hein, mm-hmm. ça l'est déjà, puisque les promoteurs utilisent de plus en plus le crowdfunding aujourd'hui. Le crowdfunding, en fait, c'est un moyen de, d'apporter en, à plusieurs les fonds propres pour pouvoir développer une opération. Et là, les particuliers, notamment, commencent à comprendre l'intérêt de ce type de montage. Et de nombreux promoteurs utilisent le crowdfunding aujourd'hui pour être capables de, d'apporter des fonds propres à leurs banquiers. Mais sur ce modèle, on voit autre chose aujourd'hui pousser que des simples opérations de logement. On voit des opérations dans d'autres, sur d'autres produits. Et puis, on voit aussi des opérations assez, assez intéressantes ou sur des commerces, par exemple, ou sur des fonctions souhaitées pour la ville, des infirmeries, des cabinets médicaux, eh bien, les privés sont, commencent à être d'accord pour financer et porter ces opérations.
Et surtout parce que le crowdfunding aussi, vous parliez de rentabilité, de profitabilité, peut rapporter aussi plus finalement qu'un placement classique.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est là qu'est le, on va dire, le, et le souci et l'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, l'argent ne rapporte plus, il est même surabondant. Et en même temps, les projets sont nombreux, avec des besoins que les financements publics ne peuvent pas complètement assumer, et surtout des difficultés dans les villes de plus en plus nombreuses aujourd'hui pour faire se rencontrer les gens qui peuvent financer et puis les usagers. Et les modes de faire à l'ancienne, j'appelle à l'ancienne, on va dire du XXe siècle, hein, sont des modes de faire éprouvés, mais très séquentiels et très silotés. Et aujourd'hui, on voit bien que sur les nouveaux besoins qui arrivent, notamment avec ce qu'on appelle le Green Deal, hein, toute la politique aujourd'hui de verdissement des villes et de décarbonation, mais aussi l'arrivée du digital, aussi l'arrivée finalement de populations qui vivent différemment de la manière dont on vivait au XXe siècle, eh bien, les choses mutent très très vite et il faut faire coopérer les gens, mais aussi en les faisant parfois cofinancer. C'est ce qui se passe sur certains projets.
Oui, vous avez des exemples concrets de financement justement local, de comment on peut déclencher des opérations de financement local, puisque vous y travaillez aussi chez Vinci.
Oui, alors une idée, alors là c'est pas du tout de financement corporate ni de financement de grandes sociétés, hein, mais un exemple particulier, une librairie qui ne trouvait pas de racheteur, en fait, est racheté par ses clients, avec une structure qui est montée avec l'aide de la ville. Et puis, les clients achètent pour 1 000, 2 000 euros des actions de la future librairie et ils seront payés en livres. Voilà un exemple un peu local qui est intéressant, puisque derrière, en fait, de nombreuses opérations se sont lancées comme ça. On a identifié dans le cadre des rachats qu'a pu faire la Poste, des startups comme Lendopolis ou comme Kiss Kiss Bang Bang, des entreprises comme ça, qui sont en fait des entreprises de crowdfunding adaptées à des projets autres que l'immobilier.
Et alors on peut aussi
de développement de commerce.
Développement de commerce, par exemple. On va beaucoup parler de rénovation dans cette émission et ce rendez-vous du Mondial du bâtiment ce mois-ci. Aussi, peut-être l'idée, pourquoi pas, de relancer aussi des rénovations de bâtiments publics, justement avec du financement privé.
Tout à fait. À partir du moment où les bâtiments peuvent notamment s'ouvrir à un usage mixte, on peut imaginer de rénover par exemple une bibliothèque en ouvrant un espace de coworking ou un rooftop ou un commerce, hein, parfois, qui permet de participer au financement de la rénovation pour ne pas que cette rénovation, souvent trop lourde, pèse trop sur les comptes de la ville. En fait, partout aujourd'hui, on voit des tentatives de connexion entre différents acteurs, et c'est très intéressant. Hein. Et en réalité, depuis cette vague d'appels à projets, à ENI, les réinventons, on a vu beaucoup de choses où on allait chercher des gros institutionnels privés, mais on voit finalement que ce qui se passe, c'est une sorte de travail sur la façon de faire la ville, où on réinvente la façon de faire la ville en faisant coopérer différents types d'acteurs, et notamment parfois des acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire, C'est d'abord le projet local et le projet de ville qui parlent à tout le monde, et là-dedans, les acteurs s'inscrivent, et y compris les acteurs du financement.
Alors, puisqu'on parle du plan de relance aussi, finalement, on a la sensation, c'est très bien, on investit, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, et qu'on pense peut-être un peu moins à mixer avec cette épargne privée, cet engagement finalement que peuvent avoir les Français.
Alors, c'est ça sûrement, mais le vrai souci aujourd'hui, c'est que les filières d'ingénierie ou d'assistance maîtrise d'ouvrage ne sont pas encore en place. C'est le thème de la rénovation privée. On cherche des tiers de confiance, on cherche des moyens de faire avancer les particuliers sur la rénovation de leur logement. Mais dès que c'est compliqué, les gens s'arrêtent. Et en réalité, il y a partout une sorte de carence ou de travail un peu à l'ancienne au niveau des façons de faire avancer les projets. Et pourtant, le code des marchés publics, par exemple, le prévoit. Hein, quand on fait des partenariats d'innovation, quand on fait des marchés de conception-construction, on voit bien qu'à ce moment-là, l'intérêt de la démarche, c'est de faire coopérer les gens depuis, si possible, des phases d'innovation et de R&D. Hein, le partenariat d'innovation, c'est ça. Mais de façon beaucoup plus simple, des sujets tels que les marchés globaux de performance ou les concepteurs-constructeurs sont des sujets où les gens travaillent ensemble pour résoudre des problèmes et finalement peser moins en ingénierie ou en assistance maître d'ouvrage sur des collectivités ou sur des maîtres d'ouvrage qui n'ont plus forcément les moyens et les habitudes de faire.
Est-ce qu'on pourrait envisager de créer un outil aussi, un outil, on voit bien qu'il y a le livret développement durable, mais un outil peut-être qui soit fléché vers le bâtiment ? En tout cas, la construction, on en a.
Dans le neuf, par exemple, ouais. On a vu l'émergence de ce qu'on appelle l'ULS, l'industrie locative sociale, où à une époque, on ne savait pas lancer de programme de logement neuf quand il n'y avait pas de rentabilité. La rentabilité était trop faible. Et dans certaines villes, aujourd'hui, les logements neufs ne permettaient pas finalement de loger les gens qu'on avait besoin, c'est-à-dire une population de locataires intermédiaires, on appelle ça, sur le secteur du logement intermédiaire. Et donc, l'usufruit locatif social a été créé, et en fait, il a fait appel à l'épargne privée, des gens qui achètent la nue propriété de certains biens, et qui confient pendant 20 ans l'usufruit ou la gestion de l'appartement à des bailleurs professionnels. Ça, ça a marché dans le neuf, et aujourd'hui, c'est tout un segment du neuf qui se développe là-dessus, avec des particuliers habitués à investir dans la nue propriété seulement, pour faire l'effet de levier et créer des logements neufs. Et dans le cadre de l'association que nous gérons, là, nous sommes en train de réfléchir à un montage un peu similaire, où, en fait, ce serait des structures de portage de nue propriété de logements anciens. Ça marcherait aussi. Mmh. Et notamment de logements individuels, parfois, qui pourraient se développer, qui pourraient se réhabiliter de cette manière.
Ah voilà, en tout cas, vous le prouvez, il y a de l'argent. Il y a de l'argent et on peut l'utiliser. Et on pourrait développer des outils. Juste un mot de conclusion en 10 secondes.
Eh bien, le vrai sujet, c'est de permettre aux gens qui ont de l'argent d'identifier des projets près de chez eux pour qu'ils puissent comprendre comment participer à la mise en œuvre de ces projets.
Ben merci beaucoup à vous. Désolé, c'est pas facile parce que je n'arrive pas à savoir à quel moment vous vous interrompez quand vous êtes au téléphone. C'est plus compliqué, mais on a réussi à vous joindre, c'est parfait. Merci beaucoup à vous, José-Michel Chenu, directeur marketing stratégique et développement urbain de Vinci, donc pour cette introduction autour de ce sujet du plan de relance et de l'épargne privée. On va marquer une courte pause et on en arrive au grand dossier du mondial du bâtiment. Ce mois-ci, on va se poser cette question, comment réussir enfin le changement d'échelle en matière de rénovation des bâtiments ?
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.